Chapitre 3. L'homme de couleur et la blanche. De la partie la plus noire de mon âme, à travers la zone hachurée, me monte ce désir d'être tout à coup blanc. Je ne veux pas être reconnu comme noir, mais comme blanc. Or, et c'est là une reconnaissance que Hegel n'a pas décrite, qui peut le faire, sinon la blanche? En m'aimant, elle me prouve que je suis digne d'un amour blanc, au même comme un blanc. Je suis blanc. Son amour m'ouvre l'illustre couloir qui mène à la prégnance totale. J'épouse la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche. Dans ces seins blancs que mes mains ubiquitaires caressent, c'est la civilisation et la dignité blanche que j'ai fait mienne. Il y a une trentaine d'années, un noir du plus beau teint, en plein coït avec une blonde incendiaire, au moment de l'orgasme s'écria « Vive Schwellcher !» Quand on saura que Schwellcher est celui qui a fait adopter par la Troisième République le décret d'abolition de l'esclavage, on comprendra qu'il faille s'appesantir quelque peu sur les relations possibles entre le noir et la blanche. On nous objectera que cette anecdote n'est pas authentique, mais le fait qu'elle ait pu prendre corps et se maintenir à travers les âges est un indice, il ne trompe pas. C'est que cette anecdote agite un conflit explicite ou latent, mais réel. Sa permanence souligne l'adhésion du monde noir. Autrement dit, quand une histoire se maintient au sein du folklore, c'est qu'elle exprime en quelque façon une région de l'âme locale. Avec l'analyse de Je suis martiniquaise et de Nini, nous avons vu comment se comportait la négrette vis-à-vis du blanc. Avec un roman de René Maran, autobiographie semble-t-il de l'auteur, tâchons de comprendre ce qui se passe dans le cas des Noirs. Le problème est magnifiquement posé, car Jean Veneuse nous permettra d'approfondir davantage l'attitude du noir. De quoi s'agit-il? Jean Veneuse est un nègre, d'origine antillaise, il habite Bordeaux depuis longtemps, donc c'est un Européen, mais il est noir, c'est donc un nègre. Voilà le drame, il ne comprend pas sa race, et les Blancs ne le comprennent pas. Et, dit-il, l'Européen en général, les Français en particulier, non contents d'ignorer le nègre de leur colonie, mais connaissent celui qu'ils ont formé à leur image. La personnalité de l'auteur ne se livre pas aussi facilement qu'on le voudrait. Orphelin, pensionnaire dans un lycée de province, il est condamné pendant les vacances à demeurer à l'internat. Ses amis et camarades, au moindre prétexte, s'éparpillent à travers la France, tandis que le petit nègre prend l'habitude de la rumination, en sorte que ses meilleurs amis seront ses livres. À l'extrême, je dirais qu'il y a une certaine récrimination, un certain ressentiment, une agressivité difficilement retenue dans la longue, trop longue liste des compagnons de route que nous communique l'auteur. Je dis à l'extrême, mais justement, il s'agit d'y aller. Incapable de s'intégrer, incapable de passer inaperçu, il va converser avec les morts, ou du moins avec les absents. Et sa conversation, à l'inverse de sa vie, survolera les siècles et les océans. Marc Aurèle, Joinville, Pascal, Pérez Galdós, Rabindranath Tagore. S'il nous fallait donner coûte que coûte une épithète à Jean Veneuse, nous en ferions un introverti, d'autres diraient un sensible, mais un sensible qui se réserve la possibilité de gagner sur le plan de l'idée et de la connaissance. C'est un fait, ses camarades et amis l'estiment beaucoup. Quel rêveur incorrigible, c'est un type, vous savez, que mon vieil ami Veneuse, il ne sort de ses bouquins que pour couvrir de griffonnage son carnet de route. Mais un sensible qui chante en espagnol et traduit en anglais, coup sur coup, un timide mais aussi un inquiet, et pendant que je m'éloigne, j'entends Divrande lui dire « Un bon garçon, ce Veneuse, volontiers chagrin et taciturne, mais très serviable. Vous pouvez vous fier à lui. Vous verrez, c'est un nègre comme on voudrait qu'il y eût beaucoup de blancs. » Oui, certainement un inquiet collé à son corps. Nous savons par ailleurs que M. René Maran cultive un amour pour André Gide. Nous pensions trouver à un homme pareil aux autres une fin rappelant celle de la porte étroite. Ce départ, ce ton de souffrance affective, d'impossibilité morale, semblait faire écho à l'aventure de Jérôme et d'Alissa. Mais il y a le fait que Veneuse est noire, c'est un ours qui aime la solitude, c'est un penseur, et quand une femme veut entreprendre un flirt avec lui, vous êtes venu trouver l'ours que je suis, prenez garde, petite madame. C'est beau d'avoir du courage, mais vous allez vous compromettre si vous continuez à vous afficher de la sorte. Un nègre, fi donc, ça ne compte pas. C'est déchoir que frayer avec quelque individu que ce soit de cette race. Avant tout, il veut prouver aux autres qu'il est un homme, qu'il est leur semblable. Mais, ne nous y trompons point, Jean Veneuse est l'homme à convaincre. C'est au cœur de son âme, aussi compliquée que celle des Européens, que réside l'incertitude, qu'on nous pardonne le mot, Jean Veneuse est l'homme à abattre, nous nous y efforcerons. Après avoir cité Stendhal et le phénomène de la cristallisation, il constate qu'il aime moralement André dans Madame Coulanges et physiquement avec Clarisse. C'est insensé, mais il est ainsi. J'aime Clarisse, j'aime Madame Coulanges, bien que je ne pense vraiment ni à l'une ni à l'autre. Elles ne sont pour moi qu'un alibi permettant de me donner à moi-même le change. J'étudie André en elle et apprends à me connaître par cœur. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne veux pas chercher à savoir quoi que ce soit, ou plutôt je ne sais plus qu'une chose, c'est que le nègre est un homme pareil aux autres, un homme comme les autres, et que son cœur, qui ne paraît simple qu'aux ignorants, est aussi compliqué que peut l'être celui du plus compliqué des Européens. Car la simplicité nègre est un mythe forgé par des observateurs superficiels. J'aime Clarisse, j'aime Madame Coulanges, et c'est André Mariel que j'aime. Elle seule, pas une autre. Qui est André Mariel, vous savez, la fille du poète Louis Mariel. Mais voilà, ce nègre, qui par son intelligence et son travail assidu s'est élevé à la réflexion et à la culture de l'Europe, est incapable de s'évader de sa race. André Mariel est blanche. Toute solution semble impossible, pourtant. La fréquentation de Payot, Gide, Moréas et Voltaire avait semblé anéantir tout cela. De bonne foi, Jean Veneuse a cru à cette culture et s'est mis à aimer ce nouveau monde découvert et conquis à son usage. Quelle erreur était la mienne? Il a suffi qu'il prenne de l'âge et qu'il aille servir sa patrie adoptive au pays de ses ancêtres pour qu'il en arrive à se demander s'il n'était pas trahi par tout ce qui l'entourait, le peuple blanc ne le reconnaissant pas pour sien, le noir le reniant presque. Jean Veneuse, se sentant incapable d'exister sans amour, va le rêver. Il va le rêver et ce sont des poèmes. Quand on aime, il ne faut rien dire. Il vaut bien mieux s'en cacher même. André Mariel lui a écrit son amour, mais Jean Veneuse a besoin d'une autorisation. Il faut qu'un blanc lui dise « Prends ma sœur ». À son ami Coulanges, Veneuse a posé un certain nombre de questions. Voici, presque in extenso, la réponse de Coulanges. « Old boy, tu me consultes derechef sur ton cas, je vais te donner mon avis une fois de plus et une fois pour toutes. Procédons par ordre. Ta situation, telle que tu me l'exposes, était plus nette. Permets-moi, néanmoins, de déblayer le terrain devant moi. Ce sera pour toi tout profit. Quel âge avais-tu donc quand tu as quitté ton pays pour la France? 3 ou 4 ans, je crois. Tu n'as depuis jamais revu ton île natale et ne tiens pas du tout à la revoir. Depuis, tu as toujours vécu à Bordeaux. C'est à Bordeaux, depuis que tu es fonctionnaire colonial, que tu passes la majeure partie de tes congés administratifs. Bref, tu es vraiment de chez nous. Peut-être ne t'en rends-tu pas très bien compte. Sache en ce cas que tu es un Français de Bordeaux. Enfonce ça dans ta caboche. Tu ne sais rien des Antillais, tes compatriotes. Je serais même étonné que tu parvinsses à t'entendre avec eux. Ceux d'ailleurs que je connais ne te ressemblent en rien. En fait, tu es comme nous, tu es nous. Tes réflexions sont nôtres, tu agis comme nous agissons, comme nous agirions, tu te crois, et on te croit nègre, erreur, tu n'en as que l'apparence. Pour le reste, tu penses en Européen, d'où il est naturel que tu aimes comme l'Européen, l'Européen n'aimant que les Européennes, tu ne peux guère épouser qu'une femme du pays où tu as toujours vécu, une fille du bon pays de France, ton vrai, ton seul pays. Ceci étant, passons à ce qui fait l'objet de ta dernière lettre. D'un côté, il y a un nommé Jean Veneuse qui te ressemble comme un frère, de l'autre, Mademoiselle André Mariel. André Mariel, qui est blanche de peau, aime Jean Veneuse qui est excessivement brun et adore André Mariel. Cela ne t'empêche pas de me demander ce qu'il faut faire, délicieux crétin. De retour en France, précipite-toi chez le père de celle qui en esprit déjà t'appartient et crie-lui en te frappant le cœur avec un bruit sauvage, je l'aime, elle m'aime, nous nous aimons. Il faut qu'elle devienne ma femme, sinon je me tue à vos pieds. Sollicité, le blanc accepte donc de lui donner sa sœur, mais à une condition, tu n'as rien de commun avec les véritables nègres, tu n'es pas noir, tu es excessivement brun. Ce processus est bien connu des étudiants de couleur en France. On refuse de les considérer comme d'authentiques nègres, le nègre c'est le sauvage, tandis que l'étudiant est un évolué. Tu es nous, lui dit Coulanges, et si on te croit nègre, c'est par erreur, tu n'en as que l'apparence. Mais Jean Veneuse ne veut pas, il ne peut pas car il sait qu'enragé de cet humiliant ostracisme, mulâtres du commun et nègres n'ont qu'une pensée dès qu'ils sont en Europe, assouvir l'appétit qu'ils ont de la femme blanche. La plupart d'entre eux, et parmi eux ceux qui, plus clairs de teint vont souvent jusqu'à renier leur pays et leur mère, ils font moins de mariages d'inclination que de mariages où la satisfaction de dominer l'européenne est pimentée d'un certain goût d'orgueilleuse revanche. Alors, je me demande s'il n'en est pas de moi comme de tous, et si, en me mariant avec vous qui êtes une européenne, je n'aurais pas l'air de proclamer que non seulement je dédaigne les femmes de ma race, mais qu'attiré par le désir de la chair blanche qui nous est défendue à nous autres nègres depuis que les hommes blancs règnent sur le monde, je m'efforce obscurément de me venger sur une européenne de tout ce que ses ancêtres ont fait subir aux miens au long des siècles. Que d'efforts pour débarrasser d'une urgence subjective. Je suis un blanc, je suis né en Europe, tous mes amis sont blancs, il n'y avait pas 8 nègres dans la ville que j'habitais. Je pense en français, ma religion est la France. M'entendez-vous, je suis européen, je ne suis pas un nègre, et pour vous le prouver, je m'en vais, en tant que commis, civil, montrer aux véritables nègres la différence qui existe entre eux et moi. Et en effet, relisez attentivement l'ouvrage, vous serez convaincu. Qui frappe à la porte? Ah, c'est vrai, c'est toi, soit? Oui, commandant, que me veux-tu? L'appel, 5 gardes dehors, 17 prisonniers, manque personne. À part ça, rien de neuf? Pas de nouvelles du courrier? Non, mon commandant. Monsieur Voneuse a des porteurs, il a une jeune négresse dans sa case, et au nègre qui semble regretter son départ, il sent que la seule chose à dire serait « Allez-vous-en, allez-vous-en, voyez, je suis malheureux de vous quitter, allez-vous-en, je ne vous oublierai pas, je ne m'éloigne de vous que parce que ce pays n'est pas le mien, et parce que je m'y sens trop seul, trop vide, trop privé de tout ce confort qui m'est nécessaire et dont vous n'avez pas besoin encore, heureusement pour vous. » Quand nous lisons de telles phrases, nous ne pouvons nous empêcher de penser à Félix Éboué, d'un noir incontestable, qui, dans les mêmes conditions, comprit son devoir d'une autre façon. Jean Veneuse n'est pas un nègre, ne veut pas être un nègre, pourtant, à son insu, il s'est produit un hiatus. Il y a quelque chose d'indéfinissable, d'irréversible, véritablement, le That Within de Harold Rosenberg. Louis T. Achille, dans sa communication aux rencontres interraciales de 1949, disait: pour ce qui est du mariage proprement interracial, on peut se demander dans quelle mesure il n'est pas quelquefois pour le conjoint coloré une sorte de consécration subjective, d'extermination en lui-même et à ses propres yeux du préjugé de couleur dont il a longtemps souffert. Il serait intéressant d'étudier cela dans un certain nombre de cas, et peut-être de chercher dans ce mobile confus la raison de certains mariages interraciaux réalisés en dehors des conditions normales des ménages heureux. Certains hommes ou certaines femmes épousent en effet dans une autre race des personnes d'une condition ou d'une culture inférieure à la leur, qu'ils n'auraient pas souhaité comme conjoints dans leur propre race et dont le principal atout semble être une garantie de dépaysement et de déracialisation, l'horrible mot, pour le conjoint. Chez certaines personnes de couleur, le fait d'épouser une personne de race blanche semble avoir primé toute autre considération. Elles y trouvent l'accession à une égalité totale avec cette race illustre, maîtresse du monde, dominatrice des peuples de couleur. Historiquement, nous savons que le nègre coupable d'avoir couché avec une blanche est castré. Le nègre qui a possédé une blanche est fait tabou par ses congénères. C'est une facilité pour l'esprit de faire exa de ce drame d'une préoccupation sexuelle, et c'est bien ce à quoi tend l'archétype de l'oncle Rému, frère Lapin, qui représente le noir, arrivera-t-il ou non à coucher avec les deux filles de Monsieur Meadows? Il y a des hauts et des bas, tout cela conté par un nègre riant, bonhomme, jovial, un nègre qui offre en souriant. Alors que nous nous éveillons très lentement à l'ébranlement pubertaire, il nous fut donné d'admirer un de nos camarades revenant de la métropole, qui avait tenu une jeune Parisienne dans ses bras. Dans un chapitre spécial, nous essaierons d'analyser ce problème. Nous entretenant récemment avec quelques Antillais, nous apprîmes que le souci le plus constant de ceux qui arrivaient en France était de coucher avec une blanche. À peine au Havre, ils se dirigent vers les maisons closes. Une fois accompli ce rite d'initiation, à l'authentique virilité, ils prennent le train pour Paris. Mais ce qui importe ici, c'est d'interroger Jean Veneuse. Pour ce, nous ferons largement appel à l'ouvrage de Germaine Gueux, La névrose d'abandon, opposant la névrose dite d'abandon, de nature pré-œdipienne, au véritable conflit post-œdipien décrit par l'orthodoxie freudienne. L'auteur analyse deux types dont le premier semble illustrer la situation de Jean Veneuse. C'est sur ce trépied de l'angoisse qu'éveille tout abandon, de l'agressivité qu'il fait naître et de la non-valorisation de soi-même qui en découle, que s'édifie toute la symptomatologie de cette névrose. Nous faisions de Jean Veneuse un introverti. Nous savons caractérologiquement, ou mieux phénoménologiquement, qu'on peut faire dépendre la pensée autistique d'une introversion primaire. Chez le sujet du type négatif agressif, l'obsession du passé, avec ses frustrations, ses vides, ses échecs, paralyse l'élan vers la vie. Généralement plus introverti que le positif aimant, il a tendance à ressasser ses déceptions passées et présentes, développant en lui une zone plus ou moins secrète de pensées et de ressentiments amers et désabusés, qui constitue souvent une sorte d'autisme. Mais contrairement à l'autiste véritable, l'abandonnique a conscience de cette zone secrète qu'il cultive et défend contre toute intrusion. Plus égocentriste que le névrosé du second type, le positif aimant, il rapporte tout à lui-même. Il a peu de capacité oblative, son agressivité, un constant besoin de vengeance, retient ses élans. Son repliement sur lui-même ne lui permet de faire aucune expérience positive qui compenserait son passé. Aussi, l'absence de valorisation et, partant de sécurité affective, est chez lui presque complète. De là, un très fort sentiment d'impuissance en face de la vie et des êtres, et le rejet total du sentiment de la responsabilité. Les autres l'ont trahi et frustré, et c'est pourtant des autres seuls qu'il attend une amélioration de son sort. Merveilleuse description où vient s'encastrer le personnage de Jean Veneuse, car, nous dit-il, il a suffi que je prenne de l'âge et que j'aille servir ma patrie adoptive au pays de mes ancêtres pour que j'en arrive à me demander si je n'étais pas trahi par tout ce qui m'entourait, le peuple blanc ne me reconnaissant pas pour sien, le noir me reniant presque. Telle est mon exacte situation. Attitude de récrimination envers le passé, non-valorisation de soi, impossibilité d'être compris comme il le voudrait, écoutez Jean Veneuse. Qui dira le désespoir des petits pays chauds que leurs parents implantent en France trop tôt dans le dessein d'en faire de vrais Français? Ils les internent du jour au lendemain dans un lycée, eux si libres et si vivants, pour leur bien, disent-ils en pleurant. J'ai été de ces orphelins intermittents et souffrirai toute ma vie de l'avoir été. À 7 ans, on a confié mon enfance scolaire à un grand lycée triste situé en pleine campagne. Mais les 1000 jeux de l'adolescence n'ont jamais pu me faire oublier combien la mienne fut douloureuse. Mon caractère, lui, doit cette mélancolie intime et cette crainte de la vie de société qui réprime aujourd'hui jusqu'à mes moindres élans. Pourtant, il aurait voulu être entouré, enchappé. Il n'aurait pas voulu être abandonné. Aux vacances, tout le monde partait et seul, retenez le terme, seul dans le grand lycée blanc. Ah, ces larmes d'enfant qui n'a personne pour le consoler. Il n'oubliera jamais qu'on l'a mis de bonne heure à l'apprentissage de la solitude. Existence cloîtrée, existence repliée et recluse où j'ai appris trop tôt à méditer et à réfléchir. Vie solitaire qui, à la longue, s'émeut longuement d'un rien. À cause de vous, sensible, en dedans, incapable d'extérioriser ma joie ou ma douleur, je repousse tout ce que j'aime et me détourne malgré moi de tout ce qui m'attire. De quoi s'agit-il? De processus, je ne veux pas qu'on m'aime. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a de cela très longtemps, j'ai esquissé une relation objectale et j'ai été abandonné. Je n'ai jamais pardonné à ma mère. Ayant été abandonné, je ferai souffrir l'autre et l'abandonner sera l'expression directe de mon besoin de revanche. C'est en Afrique que je pars. Je ne veux pas être aimé et je fuis l'objet. Cela s'appelle, dit Germaine Gex, mettre à l'épreuve pour faire la preuve. Je ne veux pas être aimé. J'adopte une position de défense. Et si l'objet persiste, je déclarerai « je ne veux pas qu'on m'aime ». Non-valorisation, oui, certainement, cette non-valorisation de lui-même en tant qu'objet digne d'amour est grave de conséquences. D'une part, elle maintient l'individu dans un état d'insécurité intérieure profond. De ce fait, elle inhibe ou fausse toute relation avec autrui. C'est en tant qu'objet propre à susciter la sympathie ou l'amour que l'individu doute de lui-même. La non-valorisation affective s'observe uniquement chez des êtres ayant souffert d'une carence d'amour et de compréhension durant leur petite enfance. Jean Veneuse voudrait être un homme pareil aux autres, mais il sait que cette situation est fausse. C'est un quêteur, il cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du blanc, car lui, c'est l'autre. La non-valorisation affective amène toujours l'abandonnique à un sentiment extrêmement pénible et obsédant d'exclusion, de n'avoir nulle part sa place, d'être de trop, partout, Affectivement parlant, être l'autre est une expression que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans le langage des abandoniques. Être l'autre, c'est se sentir toujours en position instable, demeurer sur le qui-vive, prêt à être répudié et faisant inconsciemment tout ce qu'il faut pour que la catastrophe prévue se produise. On ne saurait assez tenir compte de l'intensité de souffrance qui accompagne de tels états d'abandon. Souffrance qui se rattache d'une part aux premières expériences d'exclusion de l'enfance et en fait revivre toute l'acuité. L'abandonnique réclame des preuves, il ne se contente plus d'affirmations isolées, il n'a pas confiance. Avant de nouer une relation objective, il exige du partenaire des preuves réitérées. Le sens de son attitude est de ne pas aimer pour ne pas être abandonné. L'abandonnique est un exigeant, c'est qu'il a droit à toutes les réparations. Il veut être aimé totalement, absolument et pour toujours. Écoutez, mon Jean bien-aimé, je ne reçois qu'aujourd'hui votre lettre de juillet dernier. Elle est parfaitement déraisonnable. Pourquoi me tourmenter ainsi? Vous en rendez-vous bien compte? D'une cruauté dont rien n'approche, vous me donnez un bonheur mêlé d'inquiétude. Vous faites que je suis en même temps la plus heureuse et la plus malheureuse des créatures. Combien de fois me faudra-t-il redire que je vous aime, que je suis à vous? Que je vous attends, venez. Enfin, l'abandonnique a abandonné, on le réclame, on a besoin de lui, il est aimé. Pourtant, que de fantasmes, m'aime-t-elle vraiment, me voit-elle objectivement? Un jour, un monsieur, un grand ami de Papa Ned, arriva, que n'avait jamais vu Pont-à-Pont. Il venait de Bordeaux, mais Dieu, qu'il était sale, Dieu, qu'il était laid ce monsieur grand ami de Papa Ned. Il avait un vilain visage noir, tout noir, preuve qu'il ne devait pas se laver souvent. Jean Veneuse, soucieux de trouver à l'extérieur des raisons à son complexe de Cendrillon, projette chez le gosse de 3 ou 4 ans l'arsenal stéréotypique raciste et à André il dira: Dites, André chéri, malgré ma couleur, consentiriez-vous à devenir ma femme si je vous le demandais? Il doute terriblement, voici ce qu'en dit Madame Gex. La première caractéristique semble être la peur de se montrer tel qu'on est. C'est ici un vaste domaine de craintes diverses, peur de décevoir, de déplaire, d'ennuyer, de lasser, et par conséquent de manquer une possibilité de créer avec autrui un lien de sympathie, ou, s'il existe, de porter atteinte à ce lien. L'abandonnique doute qu'on puisse l'aimer tel qu'il est, car il a fait la cruelle expérience de l'abandon, alors qu'il se proposait à la tendresse des autres, tout petit. Donc, sans artifice. Pourtant, Jean Veneuse n'a pas une vie dépourvue de compensation. Il taquine la muse, ses lectures sont imposantes, son étude sur Suarez est fort intelligente. Cela aussi est analysé par Madame Gex. Prisonnier de lui-même, confiné dans son camp à soi, le négatif agressif grossit son sentiment d'irréparable de tout ce qu'il continue à perdre ou que sa passivité lui fait manquer. Aussi, exception faite de secteurs privilégiés comme sa vie intellectuelle ou sa profession, conserve-t-il un profond sentiment de non-valeur? À quoi tend cette analyse? À rien de moins qu'à démontrer à Jean Veneuse qu'effectivement, il n'est pas pareil aux autres. Faire honte aux gens de leur existence, disait Jean-Paul Sartre, oui. Les amener à prendre conscience des possibilités qu'ils sont, oui. Les amener à prendre conscience des possibilités qu'ils se sont interdites, de la passivité dont ils ont fait montre dans des situations où justement il fallait, telle une écharde, s'agripper au cœur du monde, forcer s'il le fallait le rythme du cœur du monde, déplacer s'il le fallait le système de commande, mais en tout cas, mais certainement, faire face au monde. Jean Veneuse est le croisé de la vie intérieure. Quand il retrouve André, placé en face de cette femme qu'il désire depuis longtemps, il se réfugie dans le silence si éloquent de ceux qui connaissent l'artificialité de la parole ou du geste. Jean Veneuse est un de ces intellectuels qui veulent se placer uniquement sur le plan de l'idée, incapable de réaliser le contact concret avec son semblable. Est-ce bienveillant avec lui, gentil humain? C'est parce qu'il a surpris des secrets de concierge. Il les connaît et se tient sur ses gardes. Ma vigilance, si l'on peut s'exprimer ainsi, est un cran d'arrêt. J'accueille avec politesse et naïveté les avances que l'on nous fait, accepte et rend les apéritifs que l'on nous offre, participe aux petits jeux de société qu'on organise sur le pont, mais ne me laisse pas prendre à la bienveillance qu'on nous témoigne, méfiant que je suis de cette sociabilité excessive qui a remplacé un peu trop vite l'hostilité au milieu de laquelle on a essayé naguère de nous isoler. Il accepte les apéritifs, mais les rend. Il ne veut rien devoir à personne, car s'il ne les rend pas, il est un nègre, ingrat comme tous les autres. Est-on méchant? Justement, c'est parce qu'il est nègre, car on ne peut pas ne pas le détester. Or, nous le disons, Jean Veneuse, alias René Maran, n'est ni plus ni moins qu'un abandonnique noir, et on le remet à sa place, à sa juste place. C'est un névrosé qui a besoin d'être délivré de ses fantasmes infantiles. Et nous disons que Jean Veneuse ne représente pas une expérience des rapports noir-blanc, mais une certaine façon pour un névrosé accidentellement noir de se comporter. Et l'objet de notre étude se précise, permettre à l'homme de couleur de comprendre, à l'aide d'exemples précis, les tenants psychologiques qui peuvent aliéner ses congénères. Nous insisterons davantage dans le chapitre réservé à la description phénoménologique, mais rappelons-le, notre but est de rendre possible pour le noir et le blanc une saine rencontre. Jean Veneuse est laid, il est noir, que faut-il d'autre? Qu'on relise les quelques observations de Gex et l'on se convaincra de cette évidence. Un homme pareil aux autres est une imposture, un essai de faire dépendre le contact entre deux races d'une morbidité constitutionnelle. Il faut en convenir, sur le plan de la psychanalyse, comme sur celui de la philosophie, la constitution n'est mythe que pour celui qui la dépasse. Si, d'un point de vue heuristique, on doit dénier toute existence à la constitution, il demeure, nous n'y pouvons rien, que des individus s'efforcent d'entrer dans des cadres préétablis, ou du moins, si nous y pouvons quelque chose, nous parlions tout à l'heure de Jacques Lacan, ce n'était pas un hasard. En 1932, il a, dans sa thèse, fait une critique violente de la notion de constitution. Apparemment, nous nous écartons de ses conclusions, mais l'on comprendra notre dissidence quand on se rappellera qu'à la notion de constitution au sens où l'entendait l'école française, nous substituons celle de structure englobant la vie psychique inconsciente telle que nous pouvons partiellement la connaître, en particulier sous la forme de refoulés et de refoulants, en tant que ces éléments participent activement à l'organisation propre de chaque individualité psychique. Nous l'avons vu, Jean Veneuse révèle à l'examen une structure d'abandonnique du type négatif-agressif. On peut tenter d'expliquer cela réactionnellement, c'est-à-dire par l'interaction milieu-individu, et prescrire par exemple un changement de milieu, un changement d'air. Justement, on s'est aperçu que dans ce cas, la structure demeurait. Le changement d'air que s'est imposé Jean Veneuse n'était pas dans le but de se situer en tant qu'homme. Il n'avait pas pour fin une saine mise en forme du monde. Il ne recherchait point cette prégnance caractéristique de l'équilibre psychosocial, mais bien une confirmation de sa névrose externisante. La structure névrotique d'un individu sera justement l'élaboration, la formation, l'éclosion dans le moi de nœuds conflictuels provenant d'une part du milieu, d'autre part de la façon toute personnelle dont cet individu réagit à ses influences. De même qu'il y avait une tentative de mystification à vouloir inférer du comportement de Nini et de Mayotte Capetia une loi générale du comportement de la noire vis-à-vis du blanc, il y aurait, affirmons-nous, manquement à l'objectivité dans l'extension de l'attitude de Veneuse à l'homme de couleur en tant que tel. Et nous voudrions avoir découragé toute tentative en vue de ramener les échecs d'un Jean Veneuse à la plus ou moins grande concentration en mélanine de son épiderme. Il faut que ce mythe sexuel, recherche de la chair blanche, ne vienne plus, transiter par des consciences aliénées, gêner une compréhension active. En aucune façon, ma couleur ne doit être ressentie comme une tare. À partir du moment où le nègre accepte le clivage imposé par l'Européen, il n'a plus de répit et, dès lors, n'est-il pas compréhensible qu'il essaie de s'élever jusqu'au blanc, s'élever dans la gamme des couleurs auxquelles il assigne une sorte de hiérarchie? Nous verrons qu'une autre solution est possible, elle implique une restructuration du monde.